Vous avez déjà regardé des enfants qui jouent dans la cour de récréation. Ils s'entendent bien, vous en avez deux qui jouent ensemble, ça marche bien, et puis tout d'un coup, il y a une dispute, ça se crie dessus, et puis c'est fâché, et puis ça y est, ils sont plus amis. Il y en a un qui part de l'un côté, l'autre qui part de l'autre, il va jouer avec les autres, c'est fini. Les amis sont fâchés. Et puis le soir, vous les voyez qui rejouent ensemble de nouveau, parce qu'ils sont amis de nouveau. Puis demain, ça recommence. Ce que vivent les enfants, les adultes le vivent souvent aussi. Nos amitiés subissent les dommages du temps et des circonstances. Mais finalement, quand on y réfléchit, notre relation avec Dieu se vit souvent de la même manière aussi. Nous avons des hauts, nous avons des bas, nous avons des jours d'euphorie dans notre relation avec Dieu, et puis quelques jours après, on va bouder Dieu parce que les temps sont devenus durs, parce que les épreuves sont apparues, parce que la souffrance nous a frappés. Et je ne peux pas blâmer le peuple d'Israël parce qu'il vivait sa relation avec Dieu de la même manière. Nous vivons de la même manière notre relation avec Dieu. Et même si en lisant le texte, nous avons l'impression que nous ferions mieux qu'eux, je ne suis pas sûr dans la réalité de nos jours, qu'en fait, nous faisons mieux que ce que faisait le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Notre relation avec Dieu passe par toutes sortes d'étapes. Et dans la vie de l'Ancien Testament, dans la vie du peuple hébreu, ces différents moments de la relation avec Dieu se trouvent décrits dans l'Ancien Testament. J'aimerais vous suggérer évidemment ce matin sept étapes de cette relation entre le peuple d'Israël et Dieu. Sept étapes que vous reconnaîtrez bien parce que nous les vivons aussi avec lui dans une certaine mesure. La première, c'est l'euphorie. C'est le grand amour. Dieu aime son peuple aime Dieu. C'est une relation proche. Il y a beaucoup d'espoir, Dieu fait des choses immenses pour son peuple, et son peuple le loue, le chante, c'est extraordinaire. Regardez ce passage qui est symptomatique de cette période d'euphorie dans la relation avec Dieu, dans le livre de l'Exode au chapitre 19. Livre de l'Exode, chapitre 19, à partir du verset 4. Il est écrit ceci. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Dieu dit quelque chose et le peuple dit « Amen, on va le faire tout de suite. » L'histoire est un peu différente, mais ce texte traduit cette période d'euphorie dans la relation avec Dieu. C'est un grand début. Vous connaissez aussi ce texte dans le livre de Jérémie au chapitre 31 qui fait référence à l'Exode, où il est dit, et Dieu s'adresse au peuple et il dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Période d'euphorie entre Dieu et le peuple. Et puis vous vous souvenez de cet événement où Dieu choisit le deuxième roi pour Israël. Et il dit, voilà, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, David. Un homme selon mon cœur. Et puis on va lire aussi ce texte lorsque Salomon fait la prière de dédicace du temple. On est encore dans cette période d'euphorie. Regardez dans le premier livre des rois au chapitre 8. Premier livre des rois, chapitre 8, le verset 23 dit ceci. Ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Extraordinaire. Cette période d'euphorie entre le peuple et Dieu est une période extraordinaire, mais qui va donner lieu à une deuxième étape qui est la routine. On va poser les mêmes gestes, on va faire les mêmes actions, on va accomplir les mêmes cérémonies, mais le cœur qui était dans ces cérémonies-là et dans ces gestes n'est plus là. C'est la routine, c'est l'habitude. La relation devient maintenant très fonctionnelle. Elle n'a plus ces élans d'émotion qu'il y avait avant. L'émotion, elle a disparu. On prend pour acquis que Dieu est content. Et puis voilà. Et j'aimerais lire un passage avec vous qui est caractéristique de cet esprit de routine qui s'installe dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 29. Ésaïe, chapitre 29, trahit cette routine dans laquelle finalement on rentre parce qu'il y a une certaine usure qui s'installe. Ésaïe, chapitre 29, au verset 13, il est écrit ceci. « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traditions humaines. » Oh, le peuple vient, il est là, il prie, il chante, mais son cœur n'est plus là. Son cœur s'est refroidi. Et on va faire ça par habitude, par routine, par principe, par devoir. Un autre texte dans le livre du prophète Amos traduit le dramatique de cette situation. Amos chapitre 5. Dans le livre d'Amos, au chapitre 5, au verset 22, il est écrit ceci. « Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. » Le peuple est rentré dans la routine, mais Dieu est aussi rentré dans cette routine. Parce que même si les choses se font encore, le cœur n'y est plus. Ni pour le peuple, ni pour Dieu. La routine, à force de durer, va produire la troisième étape qui est la frustration. La frustration, on va laisser sortir la colère, on va laisser sortir ce ressentiment. Et en réalité, le peuple cherche non plus le plaisir de Dieu, mais son propre plaisir. On cherche à se faire plaisir à soi, si bien que cette routine devient une frustration où le peuple est frustré avec Dieu et Dieu est frustré avec son peuple. Alors j'aimerais regarder deux textes dans ce sens-là. Regardez dans le livre du prophète Malachie comment Dieu s'exprime et exprime sa frustration dans cette relation avec le peuple. Malachie chapitre 3, verset 13. « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. » Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert l'Éternel. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Dieu dit, mais enfin, vous faites tout ça par routine et vous dites, ça ne sert à rien. Et Dieu dit, mais vous êtes dur avec moi. Mais le peuple et les hommes de ce peuple vont dire, « Ah Dieu, mais tu es dur avec nous. » Regardez dans le livre des Juges, au chapitre 6. Juges, chapitre 6. On va retrouver là un homme que vous connaissez bien, qui va être appelé par Dieu à le servir. Mais la réaction qu'a Gédéon lorsque Dieu s'adresse à lui est intéressante. Regardez dans le livre des Juges, au chapitre 6, le verset 13. Il est écrit ceci. Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Alors toutes ces belles histoires du passé, tous ces miracles, toute cette période de l'euphorie-là, c'est où ça ? Dieu nous a abandonnés. Frustration du peuple envers Dieu, frustration de Dieu envers le peuple, la relation ne va pas très bien. Cette alliance est malade. Et puis, cette frustration va engendrer, dans le cadre du peuple d'Israël ici, l'infidélité. Regardez dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 3. Jérémie chapitre 3, cette fois-ci, la frustration a engendré une séparation. Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 11, il est écrit ceci. L'Éternel me dit, « L'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. » Va, crie ses paroles vers le septentrion et dit, « Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. » Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Infidélité. Et souvent dans la Bible, l'infidélité spirituelle est traduite par le mot adultère. La frustration a porté des fruits négatifs. Il y a une séparation. Il y a une recherche ailleurs de cette relation qui maintenant est en mauvais état. Et puis, après, en cinquième étape, il y a l'étape du silence. Le silence. Le silence de Dieu. Et vous savez, pour l'avoir vécu peut-être vous-même, que le silence de Dieu est presque pire que sa parole de colère. L'exil de la parole. Le silence de Dieu. Et ce silence de Dieu apparaît à plusieurs reprises dans l'histoire du peuple d'Israël. Regardez un premier texte avec moi dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel au chapitre 3. Il y a dans ce passage une indication déjà de ce temps de silence qui a frappé la relation entre le peuple et Dieu. Premier livre de Samuel au chapitre 3, au verset 1er, il est dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. La parole de l'Éternel était rare dans ce temps-là. Dieu se réfugiait dans le silence. Un autre passage dans le même livre de Samuel, le premier au chapitre 28, à l'autre bout du livre de Samuel. Premier livre de Samuel au chapitre 28, au verset 6, il y a là encore le silence de Dieu. Vous connaissez cette histoire, c'est la fin du règne de Saül, et il est dit dans 1 Samuel 28, verset 6, « Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urim, ni par les prophètes. » Rien. Silence. Le silence de Dieu pèse lourd sur le cœur de l'homme, en particulier dans la souffrance. Et vous vous souvenez de cette parole de Job qui dit à Dieu, « Je crie vers toi et tu ne réponds pas, tu deviens cruel contre moi. » C'est dans Job chapitre 30. Lorsque la souffrance frappe et que l'on prie et que l'on crie à Dieu et que le silence est total, on a l'impression que notre prière ne va que jusqu'au plafond et jamais plus haut. Le silence de Dieu est encore plus dur que sa parole de colère. Et puis, bien entendu, on ne peut pas manquer de lire ce passage dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26, où se trouve là manifesté d'une façon dramatique le silence de Dieu. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 62, il est écrit ceci. Le souverain sacrificateur se leva et dit à Jésus, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Ces hommes sont pratiquement insultés par le silence de Dieu devant eux. Le silence de Dieu. Le peuple, dans l'Ancien Testament et parfois dans le Nouveau Testament et l'époque de l'Église, a souvent vécu cette période du silence de Dieu. Le silence de Dieu pendant les persécutions. Le silence de Dieu dans la souffrance. Comme si quelque part, on n'avait plus rien à se dire. L'étape suivante, l'étape numéro 6, c'est la repentance. Parce que la souffrance de cette relation cassée devient insupportable et finalement, c'est un appel à revenir à cette alliance et à cette relation qui a tellement souffert. Dieu met dans le cœur l'humilité. Il met dans le cœur le désir de retrouver le contact que l'on a perdu. On se souvient de ces jours heureux et on veut les retrouver. Regardez ce texte dans le livre du prophète Néhémie. Néhémie au chapitre 9. On trouve dans ce texte-là cette notion de retour. Néhémie chapitre 9, à partir du verset 32, c'est un extrait de la prière de Néhémie qui dit ceci. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Cet esprit de repentance qui reconnaît que nous avons fait le mal, mais toi, malgré ça, tu es resté fidèle et juste. Cet esprit de repentance va nous amener à rechercher le contact que l'on a perdu. Et en septième étape, bien entendu, lorsque cet esprit de repentance porte ses fruits, on arrive à retrouver l'euphorie, le premier amour. Et je voudrais lire un texte dans ce sens dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 44. Ésaïe chapitre 44, au verset 21, il est dit ceci. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur, je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Une expression très forte de ce bonheur du retour. On a retrouvé l'euphorie du départ, on a retrouvé le premier amour. Vous avez remarqué dans ces passages que nous avons lus, revient souvent le mot « alliance », l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Dieu fait toujours une alliance avec son peuple. Il ne fait jamais un contrat. Ce mot « alliance » est extrêmement important dans les Écritures parce que cette notion d'alliance touche à de nombreux sujets que nous voyons dans les Écritures. Par exemple, pas de jugement possible s'il n'y a pas d'alliance. L'alliance, c'est la base même du plan du salut. Le plan du salut repose dans la constitution de cette alliance. Le mot « alliance » que l'on retrouve tout au travers des Écritures est essentiel parce que Dieu fait toujours une alliance avec son peuple. Il ne fait pas de contrat. Le contrat, c'est une formalité qui permet à deux parties d'augmenter leurs intérêts personnels. C'est très fonctionnel. L'alliance, c'est d'abord une relation. Et dans cette relation, la relation est plus importante que les bénéfices qu'on en tire. Dieu fait toujours une alliance avec son peuple. D'ailleurs, l'alliance que Dieu fait avec son peuple est une alliance éternelle, jamais un contrat. Parce qu'un contrat, c'est bien simple. Si l'une des parties considère que l'autre n'a pas rempli les termes du contrat, eh bien cette partie se considère automatiquement libre et dégagée de ses engagements dans ce contrat. Tandis que dans une alliance, il en est tout autrement. Parce que dans l'alliance, ce qui est plus important, ce ne sont pas les bénéfices qu'on en tire, c'est la relation qui est créée. Et dans ce sens-là, Dieu essaie de montrer ce qu'il y a dans une alliance. Regardez simplement un texte avec moi dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, au verset 13, nous retrouvons cet esprit de l'alliance. On va lire au verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il y a un moment où cette alliance peut être cassée, brisée. Mais vous avez remarqué, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Ça, c'est l'esprit de l'alliance. L'alliance demeure même si l'un d'entre eux est infidèle. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'histoire d'Israël constamment, où le peuple est infidèle. Et il y a un livre entier, le livre d'Osée, qui est consacré à cette image de l'infidélité. Mais Dieu, lui, est fidèle parce qu'il ne peut se renier. Je pense à cette alliance éternelle. L'épître aux Hébreux nous rappelle la force de cette alliance. Et l'apôtre Paul, dans cette épître, rappelle que c'est une alliance qui est signée par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas une alliance comme ça qui est signée sur un bout de papier. C'est une alliance signée par le sang de Jésus-Christ. C'est dire à quel point quand Dieu fait une alliance, c'est une alliance qui a un poids énorme. C'est une alliance de vie ou de mort. Et je trouve que l'alliance que Dieu fait avec son peuple ressemble beaucoup à l'alliance dont Dieu est témoin lorsque nous vivons notre mariage. Finalement, ces deux alliances se ressemblent beaucoup. Parce que, vous l'avez vécu aussi, nos mariages passent par ces mêmes 7 étapes dans le courant de leur existence. Nous vivons aussi ces mêmes étapes. Ça commence, vous vous en souvenez, par l'euphorie, le premier amour, où on a des petits cœurs qui se promènent dans les yeux, vous vous en souvenez, où on va tout faire pour l'autre, on va prendre soin de l'autre, on va penser à l'autre jour et nuit. C'est une relation proche qui est chargée d'émotions, et pour certains, ils ne marchent plus par terre, ils volent pendant cette période-là. Ça, c'est la période d'euphorie, qui dure un certain temps, mais après ça, on tombe aussi dans la routine. Les émotions retombent, les gestes sont encore là, on fait encore les mêmes choses, mais le cœur n'y est plus de la même manière. On n'a plus cette même émotion, on n'a plus cette même attention. On est occupé à autre chose que de s'occuper de l'autre. Finalement, on s'occupe de soi parce qu'on a l'impression que l'autre ne s'occupe pas assez de nous. Alors on va s'occuper de soi-même. Et on fonctionne maintenant dans une relation très, très pratique, très fonctionnelle. On a des devoirs à remplir, on a des choses à faire et on les fait. Et on se rend compte que la vie de cette relation, elle est partie, mais on n'est pas bien sûr où elle est partie. Alors la routine débouche ensuite sur la frustration. Notre insatisfaction conduit à la frustration, conduit à la colère, et on commence à faire des reproches clairs à l'autre, qui n'a pas donné satisfaction, qui n'a pas répondu à nos attentes, qui n'a pas fait ce qu'il devait. Là, l'unité commence à être détruite. On a surtout détruit cette réciprocité à l'intérieur du mariage. On est capable de se mettre en colère l'un contre l'autre. On est même capable de punir l'autre par nos comportements, par nos actions. Et parfois, heureusement, pas trop souvent, cette frustration débouche sur l'infidélité. Mais pas toujours. Mais enfin, il y a parfois cette pensée où on se dit « Ah, mais si j'avais marié la bonne personne, ça ne serait pas arrivé comme ça. Si j'avais pas marié cet homme-là, je n'en serais pas au point où j'en suis aujourd'hui. Si je n'avais pas marié cette fille, on ne serait pas dans les problèmes comme ça. » Aussi une sorte d'infidélité quelque part. Alors, on finit dans cette étape-là, à regarder le mariage comme un contrat, dont on se sent presque libre de sortir si l'autre n'a pas répondu à nos attentes, si l'autre n'a pas répondu à ce que nous pensions être sa partie du contrat. Alors, on pense à sortir, à détériorer la relation. Et puis, il y a aussi, en cinquièmement, le silence. On n'a plus rien à se dire, parce qu'on vit des choses tout à fait différentes. On n'a plus rien à se dire. Oh, en fait, on en aurait trop à dire. Et on ne veut pas le dire pour ne pas faire mal, mais finalement, le silence fait autant mal que la communication. Parfois, on se cache. On vit comme des étrangers. Et le silence dans la relation de la famille est tout aussi dur à porter que dans la relation avec Dieu. Dur, le silence. Parce que, curieusement, le silence parle beaucoup. Vous avez remarqué? Et puis après, vient numéro 6, la repentance. La souffrance de cette relation brisée est un appel pour la reconstruire. Le Seigneur met dans notre cœur l'humilité. Il met dans notre cœur l'altruisme. Il met dans notre cœur les sentiments nécessaires pour aller ensemble rechercher l'endroit du chemin où on n'a plus marché ensemble et où nos chemins se sont séparés. On va les rechercher ensemble et on commence à bénéficier, non pas du contrat, mais de l'alliance, parce qu'on cherche à se réapprivoiser. Et puis, septièmement, le Seigneur nous donne la grâce de retrouver le premier amour, parce que dans ce premier amour retrouvé, il y a beaucoup plus de maturité que dans l'euphorie du départ. Parce qu'on est en train d'apprendre ce que c'est que de vivre la grâce de Dieu. Le mariage est une alliance, jamais un contrat. Alors il y a bien entendu cette idée moderne qui dit évidemment, si l'autre ne me donne pas satisfaction, s'il ne me donne pas le bonheur que j'attendais, s'il ne me permet pas l'épanouissement auquel j'ai droit, s'il ne donne pas cette liberté de faire ce que je veux quand je veux, eh bien dans ce cas-là, puisque le mariage, pense-t-on, est un contrat, il n'a pas rempli, elle n'a pas rempli sa part, je peux sortir de là et je suis libéré. Le mariage n'est jamais un contrat, c'est toujours une alliance. Gary Thomas mentionnait une étude qui a été faite et qui rapporte quelque chose d'intéressant. Il faut 9 à 14 années pour un couple pour arriver à penser non plus en tant que deux personnes, mais à penser en tant qu'une. Il faut 9 à 14 années pour qu'un couple arrive à poser les fondements d'une nouvelle personne et qu'ils arrivent à constituer l'unité avec deux morceaux différents. Il faut entre 9 et 14 années. C'est dire que la consolidation d'une alliance ne se fait pas en une journée. Mais alors, si on décide avant cette période-là de détruire l'alliance, de sortir de là, de casser le mariage, en fait, on est tout simplement en train de démolir la maison quand elle n'est même pas finie d'être construite. Alors évidemment, il y a toujours cette tentation auquel je faisais allusion tout à l'heure. Si seulement j'avais marié la bonne personne, on n'en serait pas là. Si seulement j'avais marié un autre, je ne sais pas qui, n'importe qui, mais pas elle, pas lui, ça irait beaucoup mieux. Vous savez, en tant que croyant, je sais que je me suis marié avec cette personne parce que Dieu a mis dans mon cœur de me marier avec cette personne parce que d'abord, elle est le meilleur outil entre les mains de Dieu pour ma sanctification. C'est ce dont on a parlé la dernière fois. Mais non seulement ça, cette personne est aussi le meilleur outil entre les mains de Dieu pour m'apprendre à vivre ce qu'est l'évangile de la grâce de Dieu. Parce que quand je me marie non seulement avec l'autre, mais je me marie avec ses faiblesses, je me marie avec ses échecs, je me marie avec ses habitudes, je me marie avec ses dépendances, avec ses défauts. Et l'autre fait de même. Ce qui veut dire que le mariage est une alliance qui correspond à un engagement tout à fait spécial, dans lequel le Seigneur me propose d'apprendre la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dieu a inventé le mariage pour nous apprendre un petit peu ce qu'est sa grâce envers chacun d'entre nous. Parce que cette personne qui me connaît mieux que personne sur la terre a entre les mains tout ce qu'il faut pour me rejeter parce qu'elle me connaît mieux que quiconque. Et en fait, mon mari ou ma femme, c'est la personne sur la terre qui me connaît le mieux après Dieu. Et cette personne aurait tout ce qu'il faut pour me dire « Mais cet homme est invivable, cette femme est épouvantable. » Mais dans l'Alliance, j'apprends à vivre la bonne nouvelle de la grâce. La grâce que je donne et la grâce que je reçois. Dieu a inventé le mariage pour nous apprendre à découvrir la grâce de l'amour de Dieu. Finalement, nous avons besoin, pour entretenir notre alliance avec Dieu, des mêmes ingrédients dont nous avons besoin pour entretenir l'alliance de notre mariage. Et ces éléments se trouvent, me semble-t-il, décrits d'une façon très belle, très courte, très simple, dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 3 et au verset 5. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Il est écrit ceci. « Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Si ces deux choses abondent dans notre relation avec Dieu et abondent dans notre alliance de mariage, nous arriverons à donner gloire à Dieu. Amen.